On n'en finira donc jamais avec tous ces noms de dieux de prince. Faudrait qu'on les expulserait. Ils sont du peuple, ils crient vengeance. Pourquoi qu'ils ont des trains royaux, qu'ils éclaboussent avec leurs lusques les conseillers municipaux, qui peut pas se payer des belles frusques. D'abord les d'Orléans, pourquoi qui marie pas ses filles en France avec un bon vieux zic comme moi, au lieu du citoyen Bragance. C'est-il ça de la fraternité, c'est-il ça de la délicatesse. On leur donne l'hospitalité, qui nous fout au moins leur gonzesse. Bragance, on le connaît cet oiseau-là, faut-il que son orgueil soit profonde. Pour s'être foutu un nom comme ça, peut donc pas s'appeler comme tout le monde. Pourquoi qu'il nage dans les millions, quand nous autres nous sommes dans la dèche. Faut qu'on l'expulse aussi, mais non, il est en Espagne à pas mèche. Y a les Napoléons, des mufs qui a toujours la colique et qui fait dans ses pantalons pour embêter la République. Plom plom, si tu réclames encore, on va te faire passer la frontière. Faut pas non plus rater Victor, il est plus canaille que son père. Moi, je vais vous dire la vérité, les princes, il est capitaliste, et le travailleur est exploité, c'est ça la mort du socialiste. Ah, si on écoutait Presley, on confisquerait leurs galettes, avec quoi que l'anarchiste aussi, il pourrait se flanquer des noces chouettes. Les princes, c'est pas tout, plus de curés, plus de gendarmes, plus de militaires, plus de richards à lambris dorés qui boit la sueur du prolétaire. Qu'on expulse aussi Léon XVI pour que le mineur y s'affranchisse. Enfin, que tout le monde soit expulsé, il restera plus que les anarchistes. Enfin, que tout le monde soit expulsé, il restera plus que les anarchistes.
Radio Libertaire 89 ou 89.4, comme on dit en Suisse.
Radio Libertaria 89.4 FM, radio de la Fédération Anarchiste.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4, radio bez Boga i gospodara.
Radio Libertaria 89,4 FM.
Radio Libertaire 89.4, the radio without God or master.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4, radio bez Boga i gospodara.
Radio Libertaria, o Radio Libertaire 89.4 FM.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4 FM, radio bez Boga i bez gospodara.
Radio Libertaria 89,4 FM.
Radio Libertaria 89.4 FM.
Radio Libertaria 89.4.
Radio Libertaria 89.4 FM.
Radio
Libertaria 89.4.
راديو التحرري 89.4.
Aunque no se espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nuestra mente ver, el bien más preciado.
écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Les forêts indécises, telles de noirs vaisseaux, s'esclaffent dans la brise, en laissant dans leurs eaux mille baisers lancés du haut des bastingages. Les cris d'oiseaux mêlés au tango des nuages suivent comme celle d'une main la ligne du sillage, le roulis du destin fait le bruit que ferait le silence en chemin sur la houle des forêts. Que chantent les guitares, les guitares, les guitares. Que chantent les guitares, les guitares, les guitares. Que chantent les guitares et la voix du vent fou qui rend sous dans le soir. Que chantent les guitares en glissant sur la coque. L'écume fredonne, l'histoire, le patchwork des femmes et des hommes, de ces gars, de ces brunes, ces matins et ces soirs, quand la corne de brume fait danser les mouchoirs. Le bateau appareille sur le ciel reflété où se noie le soleil qui transperce d'archet la musique qui sommeille dans le creux des forêts. Que chantent les guitares, les guitares, les guitares. Que chantent les guitares, les guitares, les guitares. Que chantent les guitares et la voix du vent fou qui rend sous dans le soir. Que chantent les guitares comme un navire sombre descend la nuit alors dans cette marée d'ombre. Les bois rêvent des doigts d'or, ceux qui donneront des ailes par le feu des accords à leur mi-chanterelle. Que les femmes dans les îles écouteront vibrer en repeignant leurs cils avant de chavirer dans l'eau d'une autre histoire qu'un jour je vous dirai, mais c'est une autre histoire.
Radio Libertaire La voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. C'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Aujourd'hui, avec le CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, et André Bitton. Bonjour André.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors écoutez, aujourd'hui on va aborder une série de thèmes, certains de façon succincte et d'autres de façon plus détaillée. Alors tout d'abord les SOS de la psychiatrie publique durant l'été, ensuite la publication et la campagne de presse sur le bouquin de Mathieu Bellassène sur l'abolition de la contention, aux éditions Libertalia, et il y a intérêt qu'une campagne d'opinion démarre là-dessus. Alors ensuite, il y a une jurisprudence très importante du 15 septembre 2023 de la Cour d'appel de Bordeaux qui donne main levée du placement en unité pour maladie difficile de Monsieur Romain Dupuis. Monsieur Romain Dupuis, c'est le crime de Pau de décembre 2004. Ça fait 19 ans qu'il est en UMD. Donc un élargissement est possible, mais dans le sens d'un transfert avec une nouvelle compétence pour le juge judiciaire, de par la décision du tribunal des conflits qui a décidé que pour les admissions et contestations de refus de transfert ou de refus de levée du MD, le juge des libertés et des détentions, le juge judiciaire, pouvait être compétent, créant une nouvelle compétence au mois de juillet. Donc, alors, je reviens là-dessus sur les SOS de la psychiatrie publique. Durant tout l'été, on a eu des nouvelles surprenantes. Le démantèlement de la psychiatrie hospitalière se poursuit à très vive allure, sous les doubles coups des rationalisations de sites et d'emplois organisées par les agences régionales de santé, et par le fait que les personnels qualifiés refusent de bosser dedans, refusent d'embaucher. Et que du fait des refus d'embauche de paramédicaux comme de médicaux, des unités ferment, faute de personnel en nombre suffisant. Et là-dessus, donc, on peut être, on va droit vers une américanisation, c'est la carcéralisation, c'est l'américanisation de la situation, avec les malades mentaux dans les prisons, etc., etc. Et donc, ça m'a rappelé le diagnostic sans démenti de la déliquescence de la psychiatrie française, que ce psychiatre qui nous a très longuement accompagnés, qui a mené une lutte très courageuse contre son administration parce qu'il s'est fait casser dans sa carrière, le docteur Champagne de la Briolle, qui est maintenant retraité, le diagnostic sans démenti à ce jour qu'il avait émis de la déliquescence de la psychiatrie publique le 29 novembre 2010, trois jours après la décision historique de censure prise par le Conseil constitue du dispositif français de l'internement psychiatrique, et où il disait « c'est les corps de métier de la psychiatrie, le corps de métier des psychiatres ces dernières décennies qui ont discrédité leur profession, qui ont discrédité leur corporation. La psychiatrie est discréditée auprès du public, des intéressés eux-mêmes. » Et ce diagnostic n'est pas démenti. Les pouvoirs publics s'en sont d'ailleurs abondamment servis, puisqu'il est de notoriété publique dans les enjeux internes à cela, que les protestations des psychiatrisés comme des parents ont été utilisées par les pouvoirs publics pour démanteler, dans le sens qu'elles entendent, l'institution hospitalière. Il faut bien voir que les mouvements d'usagers, les mouvements de patients et d'aidants, depuis leur officialisation il y a 25 ans, avec les ordonnances du plan 96, ont été utilisés par la puissance publique pour ficher en l'air les citadelles syndicales hospitalières, et singulièrement en psychiatrie. Donc c'est comme cela que nous, on s'est retrouvés quand il y a eu les dispositions sarkozystes, les mobilisations des professionnels dans le collectif des 39, on s'est retrouvés être en pointe et rejeté par les organisateurs même professionnels de la psy de ces mobilisations, disant « bon, vous, les fous paranoïaques, faites-nous la claque, restez dans votre coin, allez vous faire voir ». En gros, ça a été... Bon, donc il y a cela, donc je clôt là-dessus. Alors maintenant, sur le bouquin de Mathieu Bellassène sur l'abolition de la contention, Caroline Coq-Chaudorge de Mediapart a interviewé Mathieu Bellassène dans un article, un entretien publié par Mediapart le 17 septembre 2023. Et donc, je pense que donner lecture des principaux passages de cet entretien, ce serait pas mal. Donc, la contention, et le titre est intéressant, « Une culture de la domination en psychiatrie ». Parce qu'en effet, la relation que nous, les patients ex-patients, même ex-patients, hein, même quand ça fait 20 ans que vous avez parmi les pieds là-dedans, avec les professionnels, ça relève de l'instinct de domination. C'est une relation féodale. En fait, c'est une relation féodale stricte au sens strict. Le féodalisme, c'est des successions de suzeraineté où les suzerains ont un pouvoir de vie ou de mort sur vous. Bien. Et bon. Alors, donc l'intitulé en dessous du titre, c'était « Le psychiatre Mathieu Bellassène dénonce dans son livre « Abolir la contention » la banalisation de cette pratique en psychiatrie présentée comme un soin alors qu'elle consiste à attacher les patients. À ses yeux, elle relève d'une culture de l'entrave, un penchant naturel de la psychiatrie qui exige des contre-pouvoirs. » Voilà, c'est ce qu'on a discuté, c'est ce qu'on discute incessamment, la nécessité pour que ce fichu dispositif spécial, qui devrait être sanitaire, puisse s'exercer pour des contre-pouvoirs. Donc, abolir la contention, c'est la proposition du psychiatre Mathieu Bellassène dans un livre qui vient de paraître. Elle est provocatrice tant cette pratique qui consiste à immobiliser en les attachant les patientes et les patients jugés trop agités est répandue. En psychiatrie, dans les EHPAD ou en urgence, ou aux urgences. En 2021, 10 000 personnes ont subi une contention en établissement psychiatrique, un chiffre très en deçà de la réalité, puisque ces pratiques ne sont pas toujours déclarées.
Oui.
Bien. Il y a eu je sais quel établissement qui a déclaré qu'ils isolaient, ils contentionnaient, mais ils ne remplissaient pas les obligations déclaratives. Et là, c'est 10 000 personnes, sur une année hein, d'ailleurs, en établissement psychiatrique. Donc on ne parle pas des autres établissements de placement, des ESMS, les EHPAD, les établissements de patients pour les mineurs, pour les handicapés, les femmes, les masses. Donc régulièrement, la Contrôle général des lieux de privation de liberté épingle des établissements de santé pour des atteintes aux droits humains dans leur pratique de la contention. Pour les docteurs Bellassène, ces pratiques relèvent d'une culture de l'entrave, une autre forme de culture de la domination propre à la psychiatrie. Il affirme que la contention n'est pas indispensable. Il l'avait banni dans le pôle qu'il a dirigé à l'hôpital de Moisselles-Val-d'Oise. Environ 15% des établissements psychiatriques n'y auraient pas recours. Mais loin d'être encouragés pour la bonne pratique, ces établissements sont souvent sanctionnés ou menacés. Alors, question de Mediapart. Pour écrire votre livre, vous avez recueilli les témoignages des personnes qui ont vécu la contention. Ils décrivent tous une expérience violente, douloureuse, traumatisante, qui a parfois brisé toute confiance dans l'institution psychiatrique. Ces récits vous ont-ils surpris ? Mathieu Bellassène, j'ai souhaité apporter ma pierre à l'édifice sur un point qui n'est jamais abordé. Comment se passe-t-on de ces pratiques ? Ma femme, la psychiatre Lauriane Bellassène, qui travaille en pédopsychiatrie, m'a soufflé l'idée des témoignages. C'est ce à quoi nous œuvrons depuis longtemps, que les premiers concernés prennent la parole pour sortir de l'ordinaire de la psychiatrie écrite par ceux qui ont le pouvoir. Et cela a été permis par les associations de patients, de personnes concernées, les associations Humapsy comme Des Fous et CRPA. C'est d'ailleurs trois associations qui représentent trois sensibilités différentes.
Oui.
Alors cette culture de l'entrave est un penchant naturel de la psychiatrie qui se développe quand les conditions politiques y sont favorables. Je savais que la contention était une expérience traumatique, en premier lieu pour les patients et aussi pour certains soignants. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point les récits de ces violences ressemblent aux récits des violences sexuelles. De viol, d'inceste. On est sur un lit attaché, des gens nous font des choses et on ne peut pas se défendre. Pour des personnes qui ont vécu des violences sexuelles, elles sont nombreuses en psychiatrie, l'expérience de la contention réactive leur traumatisme. J'ai aussi recueilli le témoignage d'un ami d'une personne morte en contention. C'est important d'avoir le récit de proches et d'évoquer les morts. Dans un rapport de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui couvre toutes les horaires sur la pharmacopée psychiatrique. Ouais. Il y aurait eu 42 morts en contention entre 2011 et 2019, mais l'agence reconnaît elle-même que ce sont des décès volontairement signalés. Combien ne sont pas déclarés ? Les patients craignent des représailles, les patients et les proches d'ailleurs, et leur parole est très souvent invalidée.
Et il y a des patients qui ne sont plus en relation avec des proches et donc qui sont complètement oubliés de tous. En
fait. Oui, oui. Oui. Ben, c'est ce qu'avait souligné en 2018 quand Yael Frimlein avait interrogé longuement avec une vidéo intéressante qui est toujours en ligne, le docteur Champagne de la Briolle, qui dans sa dernière affectation s'était mobilisé pour une autiste complètement abandonnée, personne de couleur par ailleurs, placée sur le site de Fleury-des-Aubrais et qui avait été entre guillemets euthanasiée. Oui, c'est du même ordre. Donc, dans votre travail de recherche, vous avez constaté qu'il y a très peu d'études sur ces pratiques, leur efficacité éventuelle ou leurs risques. J'ai trouvé 300 articles dans la littérature internationale depuis les années 70, et dans tous ces articles, il y a une constante, le manque de données. Par comparaison, il y a 110 000 articles sur les psychotropes. Cela indique que la contention mécanique est une pratique honteuse. Des études s'intéressent au vécu des soignants, très peu au vécu des patients. En 2016, il y a eu un engagement politique à réduire les pratiques d'isolement et de contention. Elles n'ont en réalité cessé d'augmenter, comme le montre une étude récente de l'IRDES. Dirigée par Magali Koldefi, publiée au printemps 2023. Non, ça a été publié récemment. En France, ces données sur l'isolement et la contention sont très récentes. Elles ne sont recueillies que depuis 2016 et réellement analysées que depuis quelques mois par des chercheurs. Et elles ne sont pas complètes. C'est ce qu'on a discuté à une des confs débats qu'on a fait récemment. C'est toujours la même chose. Les pouvoirs publics ne sont pas intéressés. Le ministère de la Santé, ils ne sont pas intéressés à faire remonter des chiffres là-dessus. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut bagarrer au niveau statistique que les instances de pouvoir créditent un organisme statistique pour que ça sorte. Donc vous parlez d'une culture de l'entrave par analogie avec la culture du viol. De la même manière, elle se dévoile parfois, comme à l'hôpital Sainte-Anne à Paris en 2010. Ça, c'est le documentaire d'Ilan Klipper en 2010, Sainte-Anne, hôpital psychiatrique. Deux services avaient accepté d'être tournés. Avant sa diffusion en mai 2010, Arte avait présenté au personnel de la direction de Sainte-Anne ce documentaire. Personne n'avait moufté, il trouvait que c'était bien. Une fois ce documentaire publié, ça a été la bronca, c'était le scandale. C'était scandaleux ce qu'on voyait. Oui. Les personnels de la direction de Sainte-Anne n'y ont pas vu mouche. Rien, tu vois. C'est dire à quel point le déni est important. Et pour moi, c'est facile à analyser. À partir du moment où vous avez l'étiquette de folie, le diagnostic qui tombe, vous n'êtes plus un être humain, donc on n'a plus rien à fiche de vous. Et donc à peu près n'importe quoi est possible. Donc, mais à sa diffusion, il a fait scandale. Les spectateurs ont découvert de la maltraitance ordinaire, des brimades, des mesures de rétorsion. Le documentaire montre des personnes attachées, parfois presque nues, malmenées verbalement par des soignants. Ce documentaire a été retiré et interdit de diffusion.
Oui.
Moi, je l'ai chez moi sur ma bibliothèque privée. Hein. Il ne faut pas le dire. Les chefs de service, dont l'un était aussi président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital Sainte-Anne, ont été sanctionnés par l'ordre des médecins de peine d'interdiction d'exercice. Cela illustre bien la culture de l'entrave, cette culture de la domination qui conduit à attacher les patients pour leur bien. Les soignants et la direction de cet hôpital n'ont pas vu l'horreur de ce qui était montré. Cette culture de l'entrave est un penchant naturel de la psychiatrie qui se développe quand les conditions politiques y sont favorables. C'est la phrase de Lucien Bonafé, on juge du degré de civilisation d'une société à la façon dont elle traite ses fous. Elle a régressé à des moments clés politiques avec la Révolution française avec Philippe Pinel, mais ça n'a pas duré. Avec la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, avec le tribunal de Nuremberg, hein, et avec le fait que des professionnels et l'opinion publique ont réalisé ce qui se passait, l'horreur concentrationnaire, le développement des pratiques désaliénistes et de la psychothérapie institutionnelle. On reviendra là-dessus, parce que cette période de l'ouverture des hôpitaux psy avec le désaliénisme, la psychothérapie institutionnelle et même la vague antipsychiatrique, ça s'est fait d'abord le désaliénisme et la psychothérapie institutionnelle, c'est pas une révolution psychiatrique, c'est une révolution de palais en France. Oui. C'est des psys qui siégeaient, qui dirigeaient leur courant, qui dirigeaient leur syndicat, qui ont organisé avec la commission des maladies mentales au ministère de la Santé de la nouvelle psychiatrie telle qu'ils l'entendaient.
Il n'y a pas une remise en question complète de l'institution.
Ah ben certainement pas. De toutes les façons, les leaders de cette époque avaient un credo, on ne touche pas à la loi de 1838.
Ah oui.
Sauf encore Lucien Bonafé, c'était encore autre chose, justement, ce leader communiste du désaliénisme. La seule réforme acceptable, c'est l'abrogation de la loi de 1838. Et ça a mené à des choses aberrantes où l'on a vu apparaître des thèses et une efflorescence de thèses soutenues notamment par Claude Deutsch, c'est-à-dire des gens issus du gauchisme. Il faut réfléchir à une légalisation de la contrainte aux soins, toutes disciplines confondues. Oui, ça a amené à ça. Hein. Oui. Et c'est là, c'est pour ça que Jean-Luc Roland avait raison quelque part de dire, le groupe Information Asile disait la même chose, hein, finalement, avec Philibert Nartet, pas de règles, c'est l'horreur. Il faut des règles, il faut des règles, il faut des règles qui garantissent les droits des malades. Mais les droits des malades, ils n'en avaient rien à fiche. Voilà, c'est tout. Donc, enfin bon, c'est une autre paire de manches. Donc ça, c'était donc cette période où ce qu'on était. Donc cette, voilà, on vit dans une société traversée par l'obsession sécuritaire, la peur des migrants, la peur des fous, des délinquants et des fous. Les soignants sont aussi traversés par tout cela. L'emmurement du monde produit un emmurement des relations humaines. De nombreux psychiatres présentent la contention comme un soin, une manière de contenir le patient. Pourquoi est-ce que cela vous révolte? La psychiatrie actuelle enrobe ces pratiques douteuses, voire sadiques, sous des concepts progressistes et positifs. En 2021, Olivier Véran, alors ministre de la Santé, a parlé devant l'Assemblée nationale de la dimension thérapeutique de l'isolement. La contention mécanique est une mesure de contrôle. Peut-être que l'on ne peut pas faire autrement dans certaines situations, mais de là à dire que c'est un soin, le Conseil constitutionnel ne s'y est pas trompé. C'est bien une mesure privative de liberté sur laquelle le contrôle judiciaire est nécessaire, en tout cas pour le maintien. Alors, des psychiatres argumentent que la contention apporte de la contenance psychique. Qu'est-ce que la contenance? C'est la manière dont l'enfant, parce qu'il est regardé, porté, bercé, prend conscience des limites de son corps. Le bébé, au départ, ne distingue pas son corps du monde environnant. Chez certains malades psychiatriques, leur corps vécu n'est pas limité à leur corps charnel. On le voit notamment chez les personnes qui se promènent avec des tas de sacs d'objets qu'ils perçoivent comme des parties de leur corps. Contention vient du latin contentio, tension, tandis que la contenance provient de continere, maintenir uni. Cela n'a rien à voir. Amalgamer la contention à la contenance, c'est une entreprise de banalisation de la violence. Alors, sur le packing, il lui dit qu'il l'a utilisé à un moment donné. Bon, voilà. Alors, là-dessus, cette question. Alors, cette question posée par Mediapart, au niveau juridique, des avocats et des associations d'usagers bataillent pour un encadrement des pratiques d'isolement contention. Bon, ça, c'est obtenu, hein, maintenant. Chaque isolement et a fortiori toute contention doit être encadré par un certificat médical et peut être contesté devant le juge des libertés de la détention. C'est pas ça, ça c'est inexact, hein, ce qu'ils ont mis à Mediapart. Mais là encore, ce combat est perverti. Vous estimez qu'en encadrant ces pratiques, on les a légitimées. Alors, là, c'est assez corsé, je veux dire. Alors, Mathieu Bellassène, oui, parce qu'il n'y a pas eu de débat de fond sur ces pratiques. On en est resté à de la pure forme. En psychiatrie, on devrait dire ce qu'on fait, rendre des comptes. Mais qu'a fait le gouvernement? Dans le même temps où on demande à l'hôpital psychiatrique de fournir des certificats, on diminue ses moyens. Aujourd'hui, dans nombre d'hôpitaux, ce sont des intérimaires qui ne connaissent pas les patients, qui font des certificats à la chaîne. Il fallait au contraire investir dans le service public de psychiatrie pour moins isoler, attacher, médicamenter, hospitaliser sans consentement. En fait, bon, la réponse n'a pas été prise à fond. La réponse aurait dû être et devrait être, le gouvernement a suivi les décisions de censure du Conseil constitutionnel, il y en a eu deux, de façon, comment dire, bureaucratique, sans ouvrir un débat de fond. Mieux même, la judiciarisation des maintiens en isolement contention s'est faite sans que les études d'impact, puisque c'était succinct, c'était des articles insérés dans le projet de loi de finances sécurité sociale 2021-2022, sans qu'il y ait des statistiques sur ces pratiques. Donc en fait, le gouvernement a légiféré à la va-vite avec le Parlement, et puis paf, en avant, et donc le débat de fond n'ayant pas eu lieu, on peut dire que l'encadrement de ces pratiques au plan judiciarisation légitime les dites pratiques. Alors cela étant, c'est pas si simple, hein, ce point de vue-là, non. Tel que c'est pas si simple, le contre-pouvoir judiciaire est absolument essentiel. La preuve, le combat que mène notamment Madame Sarah Massoud et les gens du syndicat de la magistrature dans les juridictions, hein, notamment. Donc, alors, aujourd'hui, ces certificats sont souvent vécus comme une contrainte administrative supplémentaire. Là, il y a une question qui se pose, qui est très importante. Environ 15% des établissements ne pratiquent pas la contention. C'était le cas du service que vous avez dirigé à l'hôpital Moisel. Mediapart a enquêté sur la façon dont vous avez été démis de vos fonctions par la direction dans le cadre d'un conflit sur la pratique de l'isolement au moment du confinement en mars 2020. Donc, nous tentions, réponse de Mathieu Bessène, de développer une contre-culture du soin. Les patients étaient au cœur de nos pratiques. On était au point de bascule où certains des dispositifs de soins se construisaient avec eux. Mais cela bousculait l'ordre établi. Collectivement, nous avons été naïfs. Nous pensions qu'il y avait suffisamment de contre-pouvoirs dans l'établissement en dehors pour qu'on soit soutenus. La Haute Autorité de Santé, le CGLPL, nous félicitait régulièrement pour nos pratiques respectueuses des droits des patients. Cela flattait la direction. Ça m'a même facilité l'accréditation HAS. J'ai même été nommé pilote droit des patients avant le Covid. Mais quand le premier confinement a commencé, la plupart des patients comprenaient la nécessité de l'isolement volontaire. Un de nos patients, en février 2020, a pris ce virus au sérieux. On nous a dit, vous les soignants, n'approchez pas, vous allez me contaminer. Pourtant, dans plusieurs services de cet hôpital, les patients étaient systématiquement isolés dans leur chambre, porte fermée à clé, notamment dans l'unité Covid. J'ai saisi la CGLPL avec des collègues du collectif de soins pour alerter sur cette confusion entre le confinement sanitaire et l'isolement psychiatrique. La CGLPL nous a donné raison, elle a publié une recommandation en urgence de portée nationale. J'ai pensé que l'hôpital ferait amende honorable comme l'avait fait le CPA de Bourg-en-Bresse qui s'est remis en question de fond en comble. Il n'en a rien été et cela s'est retourné contre nous. Et donc, il a été déposé. Ce qui n'avait pas été vu à l'époque, c'était qu'en 2020, on avait changé de politique. En 2016, lorsqu'il y a eu la recommandation en urgence sur le CPA, c'était François Hollande qui était au pouvoir, lequel François Hollande savait que une partie de son élection de 2012, il le devait aux hospitaliers, qui en avaient marre du sarkozysme. Bon, donc en fait, des consignes, moi on me l'a dit, des consignes avaient été passées pour éviter, durant le quinquennat de François Hollande, une stigmatisation médiatico-politique des malades mentaux. Donc en fait, comme c'était la contre-générale, c'était Madame Adeline Hazan, qui vient quand même de l'appareil politique PS. Hein, voilà. Donc en fait, en 2020, on est sous, quand il y a eu le confinement, on est sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui dès l'été 2017 avait mis les cartes sur la table, les malades mentaux dangereux, etc. etc.
Oui.
Hein, faut s'en rappeler. Hein, ça. Donc en fait, c'est pas du tout le même contexte. Donc, alors, comment Mathieu Bellassène est devant le tribunal administratif pour contester sa déposition de la chefferie de Pôle et demander une reconstitution de carrière. Bon, il a été reconnu par la maison des lanceurs d'alerte comme lanceur d'alerte. Alors, vous n'êtes pas seul à subir des rétorsions. Cette culture de l'entrave est soutenue de manière officielle et il y a de nombreux exemples. Et là c'est assez magnifique hein, cela, de voir cela. Le CGLPL a écrit en mars 2022 au ministre de la Santé Olivier Véran pour l'alerter sur la restructuration de l'hôpital de Chinon en Indre-et-Loire qui menace les pratiques exemplaires de l'établissement où il n'y a ni isolement ni contention. Olivier Véran a choisi de soutenir la restructuration du service en question, du service vertueux en question, pour résorber la dette de l'établissement. À l'hôpital de Laragne, en Hautes-Alpes, où il y a un contre-pouvoir par les personnels et les soignants, il y a une espèce d'enclave contestataire habituelle. L'hôpital de Laragne, dans les Hautes-Alpes, développe depuis des années une contre-culture. Le ministère a refusé les crédits alloués pour créer des chambres. Ah non, c'est l'hôpital qui a refusé les crédits alloués pour créer des chambres d'isolement. Enfin, ils sont très isolés dans la nature, donc en fait, ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin. Pour cette raison, l'Agence régionale de santé menace aujourd'hui de lui retirer son agrément pour les hospitalisations sans consentement. Par contre, les hôpitaux épinglés par le CGLPL pour leurs pratiques, eux, n'ont pas de problème. On étouffe ceux qui essayent de faire autrement. De toute façon, c'est la vieille histoire. Quand on voit des saloperies s'exercer en psychiatrie, pour, en quelque sorte pour les contester de façon ironique, il est important de faire une demande aux hiérarchies en disant que le chef de pôle, etc., doivent recevoir une médaille de l'ordre du mérite. Il y a des chances que ça puisse être suivi d'effet. Bon, donc alors voilà, ça c'est sur ce thème. Et donc l'autre thème, c'est cette percée jurisprudentielle. La cour d'appel de Bordeaux, dans une ordonnance obtenue par maître Hélène Lecas, dans l'affaire de M. Romain Dupuis, le criminel de Pau, soutenu par Serge Portelli aussi. La cour d'appel de Bordeaux a levé la mesure d'hospitalisation d'office de M. Romain Dupuis en ce qu'elle s'exerçait à l'UMD. disant que nécessairement l'administration devait prendre une décision d'affectation de ce patient dans une unité classique, dans un hôpital psychiatrique classique et dans une unité classique. C'est une percée très importante. On peut faire une pause ? Toujours Radio Libertaire et toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie avec André Bitton, le CRPA.
Oui, bonjour. Alors, on va reprendre cette percée jurisprudentielle issue de ce qu'avait obtenu maître Serge Portelli, mais surtout maître Hélène Leca du barreau de Paris. Dans l'affaire de M. Romain Dupuis, donc le criminel de Pau de décembre 2004, de l'hôpital des Pyrénées de Pau, ce fait divers qui avait provoqué la mobilisation des sarkozystes et induit la première réforme de l'irresponsabilité pénale dite loi Dati du 25 février 2008 qui avait réformé la déclaration d'irresponsabilité pénale de façon assez approfondie et introduit. Enfin, c'est une réforme vraiment très importante qui avait préludé la judiciarisation des internements psychiatriques d'ailleurs. Donc, dans cette ordonnance sur renvoi du tribunal des conflits, décision du 3 juillet 2023, accroissant le bloc de compétences du juge judiciaire pour statuer sur les admissions et les sorties d'unités pour malades difficiles, le juge judiciaire est désormais compétent. La cour d'appel de Bordeaux, sur saisine de maître Hélène Leca pour le compte de son client, décide dans le 15 septembre passé d'ordonner la levée de l'internement d'office de M. Dupuis en ce que cet internement s'exerce en UMD.
Donc alors, cette percée juridique est d'une très grande importance pour les personnes hospitalisées d'office. Par cette ordonnance du 15 septembre courant, la Cour d'appel de Bordeaux donc lève cette mesure. Elle ordonne également que cet interné médico-légal soit transféré dans l'unité classique d'un établissement psychiatrique. Cette décision est aussi susceptible de s'appliquer aux mesures de transfert disciplinaire d'une unité habituelle d'un établissement psychiatrique vers une unité sécurisée du type unité de soins intensifs ou unité pour malades agités et perturbateurs. Sur ce point, c'est quiconque a affaire à l'hospitalisation psychiatrique, y compris libre, qui peut être concerné par cette jurisprudence. Je ne dis pas que c'est un impact direct, c'est un impact indirect, c'est une brèche ouverte qui permet d'aller dans ce sens. Pour conclure, Maître Hélène Leca, avocate au barreau de Paris, en instrumentant durant 3 ans sur ce dossier sans ménager ses heures et son investissement, doit être félicitée. Le droit des personnes psychiatrisées a avancé ces mois-ci, malgré les vents contraires dus à une stigmatisation renforcée, de nouveau en place depuis la tuerie du 22 mai passé au CHU de Reims. Donc le journal international de médecine JIM a consacré un article qui me paraît complet et intéressant à cette affaire. Double meurtre de l'hôpital de Pau, Romain Dupuis devrait rapidement quitter l'UMD de Cadillac. Romain Dupuis, c'est donc un article du 19 septembre. Romain Dupuis, déjà hospitalisé à 3 reprises pour schizophrénie à l'hôpital psychiatrique de Pau, quitte son domicile, ça c'était en décembre 2004... En décembre 2004, oui, après avoir consommé une grande quantité de cannabis, l'équivalent de 15 joints, craignant que des chiens sauvages ne se trouvent sur son chemin alors qu'il aurait été attaqué 3 jours plus tôt dans un quartier de Pau, où il était venu se procurer des stupéfiants, il a rempli ses poches de vis cruciformes et s'est muni d'un couteau de cuisine pour se venger de ses agresseurs. Ne les retrouvant pas, il se rend à l'hôpital psychiatrique pour se défouler sur des blouses blanches. Croisant une infirmière et une aide-soignante après s'être introduit dans l'établissement par une fenêtre, il poignarde la première et décapite la seconde, déposant sa tête sur un poste de télévision. Le 29 janvier 2005, Romain Dupuis est arrêté pour tentative de meurtre sur des policiers de la BAC de Pau lors d'un contrôle de routine. En garde à vue pour ces faits, il est confondu par son ADN prélevé par la police sur les taches de sang retrouvées sur la scène de crime à l'hôpital. Alors, l'affaire avait provoqué une vive émotion, remettant sur le devant de la scène le vieux débat sur la sanction pénale des personnes atteintes de troubles mentaux. Nicolas Sarkozy était alors intervenu pour permettre aux familles des victimes un enfermement à vie de Romain Dupuis. À l'issue d'une longue procédure, l'auteur des faits avait cependant été déclaré irresponsable le 28 août 2007. Ce double meurtre est néanmoins à l'origine d'une vaste réforme en 2008 qui permet aux juges de reconnaître l'imputabilité des faits, tout en retenant l'irresponsabilité de l'auteur. Après 19 ans d'internement à l'UMD, une longue bataille juridique, la Cour d'appel de Bordeaux a ordonné vendredi 15 septembre la mainlevée du placement de Romain Dupuis, comme le préconisait, depuis fort longtemps et à répétition, la commission médicale de l'établissement depuis plusieurs années. Il demeurera, quoi qu'il en soit, hospitalisé sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte. La difficile sortie de l'UMD. En mai 2021, ses avocats avaient saisi la Cour d'appel de Bordeaux pour formuler une demande de sortie de l'établissement afin de bénéficier d'un suivi psychiatrique ordinaire, le cas échéant dans un autre établissement. La Cour d'appel de Bordeaux avait alors conclu qu'il ne ressortait pas des pouvoirs du juge des libertés de la détention de se substituer à l'autorité préfectorale pour prendre une décision qui n'est manifestement pas de son ressort. Un arrêt qui met en lumière le paradoxe du sort de nombreux patients reconnus responsables de leurs actes. Les décisions de non-lieu sont souvent perçues par l'opinion publique comme un signe de laxisme permettant d'échapper à l'incarcération. Pourtant, les personnes jugées irresponsables d'homicide sont souvent conduites à vivre dans l'univers hospitalier, le plus souvent sans espoir de sortie. L'admission au sein d'une UMD ne peut concerner que des malades pris en charge sans consentement et sur décision du représentant de l'État, donc sur arrêté préfectoral, ou déclaré irresponsable pénalement. De toutes les façons, c'est arrêté préfectoral. La décision d'admission en UMD dépend du préfet du département dans lequel le patient se trouve hospitalisé. Donc c'est à la commission de suivi médical, lorsqu'elle estime que les conditions du maintien en UMD ne se justifient plus, qu'il revient de saisir le préfet qui prononce alors par arrêté la sortie du patient. Enfin, la sortie, c'est le transfert. Un état de fait qui entretient une ligne floue entre les compétences du préfet et celles du juge judiciaire. Oui, enfin bon. Romain Dupuis, lanceur d'alerte. En 2022, Romain Dupuis et 17 autres patients de cette UMD, l'unité Moreau de l'UMD de Cadillac, avaient fait paraître une lettre ouverte dans Le Parisien pour dénoncer le manque de reconnaissance tant professionnelle que financière dont souffle le personnel et le turnover que cette situation génère, puisqu'ils étaient de moins en moins encadrés.
Il y a de moins en moins de personnel. Dans l'application des soins médicamenteux et thérapeutiques, nous, les patients, avons un besoin crucial de garder une équipe soignante stable qui nous connaît pour une prise en charge de qualité, insistaient les signataires. Pour les malades, cette situation aurait entre autres pour conséquence la diminution du nombre de sorties thérapeutiques. Nous nous voyons déjà privés de l'espoir de sortir des murs pour des raisons de manque de personnel. Depuis plusieurs mois, voire des années, nous remarquons en tant que patients une diminution importante de notre liberté, une prise en charge dégradée, malgré le fait que les soignants reviennent sur leur repos et que nous, pour que nous puissions bénéficier d'une, de la meilleure qualité de prise en charge, concluait le texte. Contactée par Libération, l'avocate de Romain Dupuis, maître Hélène Leca, déclare qu'elle ne souhaite pas communiquer en l'état sur cette décision afin de permettre que la solution soit mise en œuvre sereinement et sans pression, à savoir le transfert de son client. Pour l'instant, nous ignorons quand son client pourrait être transféré ni dans quel établissement. La préfecture et le parquet ont 2 mois pour se pouvoir en cassation. Alors, ils sont, semble-t-il, d'après les dernières nouvelles, il n'y aura pas de pourvoi en cassation. Bon, d'abord, donc le transfert va être effectué. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette décision, elle présente un intérêt jurisprudentiel considérable. Tout d'abord, cette décision confirme qu'il y a une compétence liée, je vais revenir sur ce concept parce que c'est assez compliqué, une compétence liée entre la commission de suivi médical des experts qui statuent périodiquement sur le sort et sur la condition, l'état mental des internés en UMD et la préfecture. Bien. Cette compétence liée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est vraiment un pas en avant parce que ça donne du pouvoir à ces experts. Tous les 3 mois, tous les 6 mois à titre obligatoire et même tous les 3 mois, siège dans les unités pour malades difficiles un comité d'experts, de 4 experts, 3 experts extérieurs à l'établissement, 1 médecin de l'ARS, du lieu, ils sont 4, ils examinent les dossiers, ils discutent avec l'équipe, si besoin ils auditionnent la personne, le patient, et ils prennent un avis. Alors, la personne peut être transférée ou la personne reste. Et ce que dit cette ordonnance, qui confirme une précédente jurisprudence, mais maintenant ça va être non frappé de pourvoi en cassation, ça va être définitif, c'est que l'avis de ce comité d'experts emporte la décision du préfet. Le préfet est tenu de suivre cet avis. Tenu, c'est ce qu'on appelle une compétence liée. Or, là, on aurait pu s'attendre à ce que l'État se pourvoie en cassation, parce que c'est vraiment très important. Hein, parce qu'en dernier ressort, dans ces affaires, c'est l'autorité préfectorale, l'autorité de police qui décide. Et on voit mal, hein, dans l'histoire de la psychiatrie française, que l'autorité administrative, autorité de police, démissionne derrière des avis d'experts. Bon, d'une part. Et d'autre part, avec le bloc de compétences créé, dans le cas de figure où la commission de suivi médical dit « banco, ce patient peut être transféré hein, », que la préfecture et son bras armé, l'ARS, n'obtempèrent pas parce que personne ne veut de ce patient, etc., la voie est ouverte désormais avec cette jurisprudence pour que le conseil, l'avocat de l'interné saisisse le JLD et dise « un bout de fer ». Ou bien alors, une autre solution, c'est le conseil de l'interné envoie une mise en demeure à l'administration préfecture ARS de placer, d'affecter autoritairement, de par les pouvoirs hiérarchiques dont il dispose, l'interné dans tel établissement classique. Si au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, pas de réponse, juge des référés judiciaires, hein, une assignation en référé, en demande qu'il y ait une injonction de d'affecter le patient autoritairement avec assortie d'une astreinte financière journalière. Et là, ça c'est une voie qui auparavant était mais absolument pas ouverte, maintenant ces choses-là sont ouvertes. Et donc c'est très important. Alors quant à la compétence liée, d'abord c'est un serpent de mer puisque ça faisait très longtemps que les psychiatres des hôpitaux qui fournissent les rangs des experts psychiatres protestaient sur la perte de leur pouvoir. Ça a même été une des pierres d'achoppement dans les réformes de 2011 et 2013. Voilà. Donc c'est tout de même très important. Voilà. À toi.
Alors, je lis l'article donc d'Ospimedia.
intitulé « La sortie d'unité pour malades difficiles de Romain Dupuis » est confirmée en cour d'appel. La cour d'appel de Bordeaux a confirmé la fin du placement de Romain Dupuis en unité pour malades difficiles qui dure depuis plus de 18 ans. Il poursuivra désormais ses soins sans consentement en service classique. Nouvelle étape dans l'affaire dite Romain Dupuis, toujours sensible près de 20 ans après les faits et dont les suites judiciaires sont encore scrutées. Le 15 septembre, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance de juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire bordelais en vue de la main levée du placement en unité pour malades difficiles de Romain Dupuis. Ce dernier est hospitalisé depuis janvier 2005 au sein de l'UMD du CH de Cadillac, Gironde, et ses avocats tentent d'obtenir depuis plusieurs années son transfert en service de psychiatrie classique pour poursuivre ses soins sans consentement. Mais la préfecture du département s'y oppose constamment malgré des avis médicaux favorables. Sortie du MD justifiée médicalement. Dans une décision rendue le 9 juin 2022, un JLD a en effet permis la sortie du MD du patient et autorisé son maintien en hospitalisation complète hors de cette unité. Il a au passage rappelé que le juge judiciaire doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Comme mentionné à l'article L3211-3 du Code de la Santé publique. Les juges en appel ont empêché cette sortie du MD. Par la suite, une décision importante et attendue pour les droits des patients en psychiatrie a été rendue le 3 juillet dernier, car jusqu'alors, une zone grise entourait le mode de contestation en justice d'un maintien dans une telle unité. Le tribunal des conflits a estimé que le juge judiciaire est bien compétent pour connaître de tout litige relatif aux décisions par lesquelles le préfet compétent admet dans une UMD un patient ou refuse sa sortie d'une telle unité. Dans l'ordonnance rendue ce 15 septembre et dont le journal a eu copie, la cour d'appel relève les éléments attestant de l'amélioration de l'état de santé du patient qui s'est également traduite par une récente main levée de sa curatelle. Si certains éléments médicaux négatifs sont parfois relevés dans les conclusions du ministère public et du préfet au regard de certains documents médicaux, voire discours parfois flous et discordants, postures de type pseudo-paranoïaque, ces troubles ne font que justifier le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans pour autant remettre les observations médicales préconisant une sortie de l'UMD, poursuit-elle. Enjeu du CH d'accueil. La Cour ajoute qu'au surplus, l'absence en l'état de structure médicale adaptée à la situation présentée par le patient ne constitue pas un motif valable pour justifier son maintien au sein de cette unité spécifique. Elle précise qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'imposer aux autorités médicales, ARS, centre hospitalier spécialisé, ni bien entendu à l'autorité préfectorale, l'établissement dans lequel le patient sera amené à poursuivre ses soins sous le régime de l'hospitalisation complète. L'enjeu est désormais de trouver l'établissement de santé qui pourra et voudra accueillir Romain Dupuis dans des conditions satisfaisantes. L'ordonnance mentionne sans surprise que l'ensemble des parties ont naturellement exclu une hospitalisation au CH des Pyrénées à Pau, alors que le patient a été déclaré pénalement irresponsable après avoir commis le double homicide d'une infirmière et d'une aide-soignante dans cet établissement en 2004. Par ailleurs, dans l'ordonnance du JLD de juin 2022, était indiqué que le CH spécialisé Charles Perens à Bordeaux a émis à l'époque un avis défavorable pour la poursuite des soins dans son établissement. La cour d'appel indique ce 15 septembre, faisant vraisemblablement allusion à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qu'il appartiendra aux autorités compétentes de déterminer l'établissement le mieux adapté dans lequel le patient sera admis, et de mettre en place les moyens, non seulement nécessaires mais indispensables, pour assurer avec efficacité et constance la poursuite de son suivi psychiatrique. Il précise qu'il est notamment indispensable de préserver Romain Dupuis de toute consommation de cannabis au regard de plusieurs facteurs. La porosité de certains centres de soins, selon les termes utilisés par un médecin cité par la Cour, la fragilité dont le patient a admis encore récemment faire preuve sur le sujet, et les conséquences que pourrait avoir cette consommation sur l'évolution de sa santé mentale. Voilà, c'est un article de Caroline Cordier, et il y a un mini-article encadré qui annonce aussi la fermeture de lits à Cadillac.
Oui, 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 oui.
Qu'on peut...
Alors ça, j'ai... Alors attendez, voir. Alors, j'ai mis quelque part dans le dernier article que j'ai publié sur le site de l'avant-dernier. Oui, j'ai mis un article de l'insoumission sur...
Ah oui.
Sur, ça vaut le coup dans... Alors, l'insoumission, c'est un organe de presse sur la Gironde, contestataire. Hein, bon, qui reprend un peu cela. Alors, leur article est intéressant, du 13 septembre 2023. L'insoumission, psychiatrie, ses révélations choc sur le centre de Cadillac. Alors, psychiatrie, la santé mentale est-elle en danger en France ? Oui. Près d'un établissement psychiatrique sur quatre a fermé plus de 10% de ses capacités. Cadillac en Gironde ne fait pas exception. Manque de 50 à 60 postes, soit près de 10% du corps soignant. Plusieurs services fermés depuis 2019. 25 arrêts maladie liés aux conditions de travail. Aux conditions de travail qui se dégradent, fermeture de la polyclinique médico-psychologique de Bazas, fermeture de 19 lits de l'unité pour malades difficiles moraux. Voilà une partie des... Attendez, je réduis le son parce que... Oui, voilà. Donc, alors, attendez. Donc, voilà une partie de ces nouvelles qui ont mis le feu aux poudres du personnel de santé. Donc, le 5 septembre 2023, les soignants en grève de l'hôpital psychiatrique de Cadillac se sont réunis dans une salle municipale pour lancer un cri d'alerte. Leur hôpital est en danger. Et par ailleurs, l'unité Moreau de l'UMD de Cadillac, il y a trois unités dans cette UMD, doit être fermée à la fin de ce mois.
Oui.
Et là, c'est surprenant parce que qu'est-ce qu'on voit ? Ah bon, ces unités pour maladies difficiles, c'est-à-dire c'est les patients réputés les plus dangereux du pays, on ferme ces unités. Mais quelle est cette politique ? C'est une politique de carcéralisation, évidemment. Alors là-dessus, ils disent quelque chose. Voilà, privatiser la psychiatrie. Si l'hostilité de la direction est bien visible, il y a également l'absence de l'Agence régionale de santé qui interroge. En effet, plutôt que de s'inquiéter de la réduction de l'offre de soins psychiatriques sur l'ensemble d'un territoire, l'ARS de la Nouvelle-Aquitaine prône un travail en réseau sur les différents hôpitaux psychiatriques à Bordeaux et à Libourne du territoire. Une logique difficilement entendable lorsque certaines communes du plus grand département métropolitain seront à plus d'une heure de route du premier hôpital psychiatrique. Cette vision managériale perd l'un des infirmiers. Sur l'hôpital public, on n'a plus de vrais cadres de santé qui connaissent le métier. On a des managers formés pour manager avec des tableaux Excel et qui sont là pour nous dire « je t'interdis de penser, nous réfléchissons à ce qu'il y a de mieux à mettre en place ». C'est l'un de nos plus gros problèmes aujourd'hui. Un autre ébahi devant les choix de la direction réfléchit à haute voix. Je ne comprends pas. On ampute les membres sains de l'hôpital pour aller perfuser les unités malades. Mais ce qui inquiète le plus Jocelyne et les infirmiers de l'hôpital, c'est la privatisation de la psychiatrie. Tout comme pour l'hôpital public, des cliniques privées spécialisées en psychiatrie font leur apparition sur le territoire, comme les cliniques Linéa, une filiale du groupe Orpea. On a là la logique qui s'est déployée en Italie avec la fermeture des hôpitaux psy, hein. Avec la loi Basaglia de 1978. En réalité, cette loi de fermeture des hôpitaux psy a provoqué que les groupes privés en santé se sont déployés.
Ah oui.
Et à l'heure actuelle, Hospimedia fait état que les groupes privés en matière de gérontopsychiatrie se portent luxueusement bien.
Oui.
Ils se déploient à bloc. Par ailleurs, on est devant la perspective que même pour des personnes hospitalisées sur leurs soins sans consentement, de par le libre choix de l'établissement du secteur et de l'établissement de santé, les plus friqués puissent passer leurs mesures d'hospitalisation sans consentement dans l'établissement privé.
Ah oui.
Habilité. Avec... Bon, c'est donc ils assistent à la destruction de leur hôpital et ils ont donc lancé alerte sur alerte. C'est même une des raisons pour lesquelles Romain Dupuis et ses camarades de l'unité Moreau ont pu avoir l'appui de la section CGT de l'hôpital de Cadillac. C'est une des grandes raisons.
Oui, on rappelle que Romain Dupuis avait aussi protesté contre les...
Oui.
Voilà,
il avait été à la base
de travail de
deux pétitions des internés de l'unité Moreau au soutien des revendications des personnels, à savoir que dans l'unité pour maladies difficiles où c'est très carcéral, la question de savoir si l'encadrement est infirmier, paramédicaux et en médecin est suffisant est très importante.
puisque c'est ça qui permet qu'il y ait des activités, c'est ça qui permet qu'éventuellement ils puissent sortir une à deux heures dehors, faire des courses, etc. etc. Hein. S'il n'y a pas assez de personnes, ils sont bouclés. Donc... Donc voilà, donc il y avait au moins cela. Alors sur la psychiatrie sartoise, là-dessus, il y a une autre nouvelle qui a été... enfin, ce qu'on a appris dans le cours des discussions sur Mediapart, c'est qu'en fait, il y avait un secteur psychiatrique à l'hôpital du Mans. Hein? Mais la psychiatrie de secteur a été rapatriée loin du Mans, sur Alône. Et que c'est cet hôpital qui est en cours de structuration. Alors là-dessus, dans la dernière livraison de la formation psychiatrique, il y a un billet nostalgique de Gisèle Apter, une psychiatre de l'ancienne génération, qui écrit à ses collègues de San Francisco, lettre de San Francisco, nostalgie, où elle dit, parce que c'est la vague des overdoses sur les opiacés, etc., qu'à San Francisco, on voit des délirants dans la rue qui parlent aux oiseaux, etc., etc. De même qu'à Montréal... pratiquement, on ramasse des cadavres sur des overdoses de fentanyl.
Oui.
Mais bon, c'est toujours la même chose. Dans le sens des droits des patients et des mouvements de personnes concernées, clairement, les pays anglo-saxons l'ont prouvé. Lorsque dans les pays anglo-saxons, ils ont décidé de fermer les institutions... Les pouvoirs publics et également les financeurs caritatifs ou des entreprises privées, ont autorisé, financé et co-développé le mouvement d'aidants et d'usagers.
Oui.
Voilà, c'est tout. Royaume-Uni, Canada, USA, etc. C'est ce qui nous arrive en France. Et ce qui est triste à dire, c'est que la structuration étatique française, le corporatisme prévalent en France et le féodalisme habituel en la matière... veut que c'est au gouvernement et au pouvoir public de donner le feu vert pour nos organisations. Mais c'est terrifiant quand même. C'est terrifiant de voir cela. Voilà. Et cela, c'est tout un. Cela prouve un échec de la psychiatrie française classique.
Eh bien, merci André pour toutes ces informations et leurs commentaires. On finit avec. Un morceau de Nautilus qui s'intitule Pop Porn. C'est le même morceau que tout à l'heure. On va prendre donc celui-ci. Voilà. We'll be right back.
Terre, dans la 13e avenue.
Soleil.
Bonjour à tous, bienvenue dans Rayon de Soleil, l'émission du sud de la France sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 sur Paris et la région parisienne, et partout dans le monde sur www.radio-libertaire.org. Et bien aujourd'hui dans Rayon de Soleil, nous allons rendre hommage à un sociologue anarchiste de l'Université de Montpellier qui était très intéressant, qui a fait toutes ses études un peu sur des thématiques en lien avec l'anarchisme. Et c'était quelqu'un d'intéressant. Il est allé faire une conférence au CIRA. Il en a fait plusieurs, d'ailleurs, à CIRA de Marseille. Et on a retenu, pour lui rendre hommage, une conférence qu'il a faite sur les utopies à partir des écrits qu'il avait faits justement sur l'utopie américaine. Voilà.